Je vais commencer par deux questions, mais qui ne sont pas des questions, vous allez voir, pessimistes, mais des vraies questions. Comment est-ce que vous avez prévu de survivre à la rentrée qui arrive, qui est déjà arrivée? Comment vous avez prévu de survivre? La fin des vacances, la reprise du boulot, la rentrée scolaire, les précautions sanitaires, l'automne qui va arriver. Comment vous allez faire? Quelle est votre astuce? Et de la même manière, en Église, une nouvelle année qui s'annonce devant nous, une nouvelle saison, de nouveau sans personne à plein temps pour faire pour s'occuper de l'Église, des protocoles sanitaires qui n'en finissent plus, des services à assurer semaine après semaine. Là, je suis en train de dresser un beau tableau, hein. Mais de nouveau, la question, comment allons-nous faire en Église pour trouver du courage face à tous ces défis? Alors, de nouveau, mes questions ne sont pas là pour jouer au pessimisme, mais pour pointer vers une question. Comment faites-vous quand il faut retrouver courage? Comment faites-vous pour vous fortifier? Quelle est votre astuce magique, s'il vous plaît? Dieu a une vraie réponse à apporter à toutes ces questions, un véritable conseil, et qui n'est pas une astuce magique. Pour être plus précis, face aux défis qui peuvent parfois nous paraître impossibles, insurmontables, par rapport à ces grandes missions qui sont dans nos vies, Dieu veut nous fortifier comment? En nous donnant une grande promesse et en nous donnant une grande exigence. Une grande promesse, une grande exigence. Et ça sera notre prédication de ce matin, et je vous invite à vous plonger dans le tout premier chapitre de Josué. Josué chapitre 1, dans l'Ancien Testament, on va lire les 9 premiers versets. Et si vous le voulez, il y a des Bibles, second 21, et dans ces cas-là, on est à la page 152, pour ceux qui suivent dans ces bibles-là. Donc je lis les 9 premiers versets de Josué 1. Après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, assistant de Moïse, « Mon serviteur Moïse est mort, maintenant lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Tout l'eau que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. » Votre territoire ira depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate, et tout le pays des Hittites et jusqu'à la mer Méditerranée vers le soleil couchant. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Et je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré de donner que je jure à leur ancêtre de leur donner. Verset 7. Seulement, fortifie-toi, et aie bon courage, en te conformant à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à gauche, ni à droite, afin de réussir où que tu ailles. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit, pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit. Et c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas ordonné? Fortifie-toi, prends courage. Ne sois ni effrayé, ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles. Avec ce tout début du livre de Josué, on est à un moment décisif, on est à un moment crucial, un peu comme lorsqu'il faut comparer ce moment à la veille du débarquement des Alliés en Normandie ou en Provence, la veille d'une Coupe du Monde de foot, la veille de la rentrée, on est à un moment crucial. Un moment qu'Israël a attendu depuis très longtemps, ça fait des siècles qu'on leur a promis une terre promise, et ça fait des siècles qu'ils sont en esclavage. Et là, pour une fois, ils sont aux portes. Ils sont juste au Jourdain. Quelle impatience! Et leur impatience est d'autant plus grande que cet endroit-là, ils le connaissent déjà. Il y a 40 ans, ils étaient déjà venus à cet endroit-là. Qu'ils étaient si proches de ce pays où coule le lait et le miel. Il y a 40 ans, Moïse et le peuple avaient été libérés miraculeusement d'Égypte. Ils avaient traversé le désert. Ils avaient récupéré les tables de la loi. et ils s'étaient approchés du fameux Jourdain. Un beau pays, mais un pays occupé par des peuples idolâtres. Que faire ? Deux espions s'étaient alors infiltrés. Vous connaissez l'histoire, on voit tout ça en nombre 13 et 14. Deux espions s'étaient infiltrés pour repérer les lieux, étaient revenus emballés. C'est un beau pays où effectivement coule le lait et le miel, mais par contre, les villes sont fortifiées, les gens sont puissants, ils y sont géants, de retour. Et ces espions avaient réussi à convaincre le peuple, on va dire, de l'impossibilité de cette mission. Et le peuple avait murmuré contre Moïse, « Est-ce que c'est pour ça que Dieu nous a sortis d'Égypte ? Dieu nous aurait menti à nous amener ici ?» Et pour avoir manqué de foi, le peuple repart dans le désert pour 40 ans, jusqu'à ce qu'une génération passe. Et même Moïse ne goûtera pas aux bénédictions de Dieu dans ce pays promis. Fin de l'histoire ? Fin. Échec des projets de Dieu ? Non. Verset 1, on l'a lu. Ok, Moïse est mort, mais l'Éternel continue de parler et continue de faire avancer son projet. Verset 1, on l'a lu. Après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, assistant de Moïse, non, les projets de Dieu sont pas finis et Dieu continue de faire avancer son plan. Et il s'adresse à un certain Josué. Est-ce que vous savez qui est Josué ? C'est un des 12 espions qui 40 ans plus tôt avait été envoyé dans la mission. Et c'était un des 2 seuls avec Caleb à ne pas avoir été découragé par la complexité de la mission qui les attendait. Et d'ailleurs, c'est les 2 seuls à avoir survécu aux 40 ans dans le désert. Donc Josué, il connaît l'endroit dans lequel il est là, devant le Jourdain. Ça lui rappelle 40 ans plus tôt. Mais au final, la mission qui est la sienne aujourd'hui, elle est... Les villes sont toujours fortifiées, les gens sont toujours aussi puissants, aussi géants. La situation est la même. Et c'est une mission que même Moïse, dans un sens, a échoué. Imaginez-vous la pression qu'a Josué sur les épaules. La pression de Josué. Et verset 2, Dieu l'appelle personnellement à prendre la suite de Moïse. Waouh ! Ça c'est... Toi, tu prends la place de Moïse et tu continues. La pression, imaginez-vous. Et puis en plus... Versets 3 et 4, Dieu lui rappelle bien l'étendue du territoire qu'il doit conquérir. Tu iras du Liban jusqu'à l'Euphrate, de la mer Méditerranée jusqu'au pays des Hittites. Ça fait, prenez votre carte, ça fait réellement des milliers de kilomètres carrés. En vue humaine, on n'est pas très loin d'un scénario à la Mission Impossible. Sauf que c'est pas Tom Cruise, mais c'est Josué. C'est pas Tom Cruise, c'est Josué. Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation comme ça? Une situation similaire, une situation qui vous paraît, waouh, au-delà de vos forces. Alors, je parle pas de ces situations au quotidien où on se dit comment je vais faire pour tailler ma haie d'ici ce soir ou étendre mon linge avant midi. C'est des petits défis, mais non, je pense. Je parle aux vraies questions qui peuvent nous sembler impossibles. Comment vais-je faire face à tel souci de santé? Un peu plus important qu'une haie à tailler. Comment vais-je faire pour trouver du travail, pour nourrir ma famille, ou alors pour survivre à tout mon travail que mon patron me donne? Comment je vais faire? Comment je vais faire pour réparer telle relation, pour mon couple? Comment je fais pour mon couple? Comment vais-je faire pour assurer service dimanche après dimanche, semaine après semaine, assurer tel service? Comment allons-nous faire en église pour tenir malgré le protocole sanitaire cet hiver? Bonne question, hein? Et comment surtout, en Église, nous allons continuer de répondre au commandement de Jésus de faire de toutes les nations des disciples? C'est ça, c'est là notre mission. C'est pas résister au protocole sanitaire, c'est faire de toutes les nations des disciples. Comment nous allons faire? C'est de bien belles missions. De bien belles missions, mais qui peuvent nous paraître impossibles. Mais face à ces missions, Dieu veut nous fortifier. Et c'est ça le message de ce matin. Dieu veut nous fortifier en nous donnant quoi ? Une grande promesse et une grande exigence. Et ce sont les 2 prochaines parties. Notre seconde partie est donc celle d'une grande promesse que Dieu nous donne face à cela. Une assurance dont il nous comble et qui donne à Josué. Dieu ne veut pas que Josué se décourage devant tout ce qu'il attend, alors il lui dit, verset 5, « Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. » Waouh ! Ça, c'est de la promesse. Tout va bien se passer, personne ne pourra résister à Josué. C'est la réussite assurée, allons-y. Ouf. Pourquoi ça va bien se passer? Oh, probablement que Josué il est meilleur que Moïse. Hein. Probablement que Josué, comme il connaît le territoire, il est un espion, puis voilà, c'est un bon guerrier. Je suis sûr que c'est pas que ça. Parce que voilà, parce que Josué est vraiment top, ça va bien se passer. Non. Non, pourquoi ça va bien se passer? La réponse se trouve dans la suite du verset 5. Personne ne pourra ne résister, car, suite du verset 5, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai pas, et je ne t'abandonnerai pas. Là, c'est ça qui est important, qui compte pour Josué, c'est la présence de Dieu. C'est pas le fait d'avoir une carte 3D, Google Maps du pays promis, ou alors d'avoir des techniques militaires infaillibles qui vont compter pour Josué. Non, c'est la présence de Dieu. Et encore aujourd'hui, face à nos difficultés, face aux questions qui peuvent être les nôtres, la présence de Dieu est plus importante que n'importe quel conseil professionnel, psychologique, thérapeutique ou que vous pourriez avoir. La présence de Dieu est ce qui compte le plus. Psaume 23, verset 4. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne redoute aucun mal car tu es avec moi. Je ne redoute aucun mal car tu es avec moi. C'est ce qui compte pour David, c'est ce qui compte pour Josué et c'est ce qui compte pour nous. Que rêver de plus que d'avoir Dieu lui-même avec nous? Que rêver de plus? C'est même plus précieux que les trompettes de Jéricho, n'est-ce pas? La présence de Dieu en nous. Cette promesse, Dieu le Père l'a accomplie de manière parfaite, de manière ultime, en envoyant son Fils Jésus-Christ, parfois aussi appelé, comment? J'arrive pas à lire sur vos lèvres, désolé, Emmanuel. Des fois, Jésus est appelé dans les prophéties Emmanuel. Que veut dire Emmanuel? Dieu avec nous. Et d'ailleurs, à la fin de son ministère terrestre, avant de monter au ciel, Jésus dit, la toute dernière parole de l'évangile de Matthieu, « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Dieu avec nous. Mais si Jésus est monté au ciel, comment il peut être avec nous? Une question auquel il avait déjà répondu, Jésus va nous laisser son esprit. L'esprit de Dieu va être avec nous. Sa présence en nous. Je vous laisserai mon esprit afin que vous ne soyez pas orphelins. Oui, Dieu est encore avec nous. Et plus que jamais, Dieu, Père, Fils et Esprit est avec nous. Et c'est une des vérités qui vous faut chérir le plus. C'est la plus belle des vérités. Dieu avec nous. Mais revenons-en à notre ami Josué. Revenons-en à Josué. Le voilà avec une grande mission et une grande promesse. Personne ne pourra lui résister et Dieu ne l'abandonnera jamais. Imaginez-vous à sa place. On vous dit ça, Dieu l'Éternel vous dit ça. Comment auriez-vous réagi? C'est bon, à l'attaque, on fonce, c'est gagné. Est-ce que Dieu est en train de signer un chèque en blanc à Josué? Vas-y, rien ne t'arrivera, je suis avec toi, fonce. Est-ce que c'est ça qu'il lui dit? Est-ce que c'est ça que Dieu nous dit quand on lit ce verset? Et je sais que c'est le genre de verset qu'on aime bien des fois trouver sur des cartes postales, qu'on s'envoie les uns les autres. Personne ne résistera devant toi car Dieu est avec toi. Tiens, je t'envoie une carte postale, un tel ou un tel. Dans quelle mesure on peut s'approprier cette promesse de réussite? Force est de constater que cette promesse, elle est avant tout faite à Josué et pas à nous. Petit, voilà, pour être bien clair, à ma connaissance, ce n'est pas Dieu ne m'a pas donné la mission de conquérir le pays promis comme il le demande à Josué. Hein. Voilà, donc si je prends ce beau verset, cette belle carte postale, pour justifier n'importe quel, lequel de mes projets, c'est pas vraiment honnête. Mais deuxièmement, même pour Josué, à qui est adressée cette parole, cette parole n'est pas un chèque en blanc, et qui réussira quoi qu'il fasse, où qu'il aille. Vous avez vu ça, deux fois il dit, je serai avec toi où que tu ailles. Où que tu ailles. Où que tu ailles. Vraiment n'importe où. Au verset 2 et 3, Dieu a bien donné, a bien rappelé à Josué les bornes du territoire qu'il lui demande de conquérir. Donc ce n'est pas n'importe où. Il lui dit, va ici, va ce territoire, et à l'intérieur de ce que je te demande, alors oui, où que tu ailles, je serai avec toi. C'est un peu comme si vous dites à votre enfant, mon grand, ma grande, tiens, voici ma carte bleue, mon chéquier, achète-toi tout ce qu'il te faut, je suis avec toi. Mais par contre, reste bien dans tel magasin et tel magasin. Vous voyez la nuance? C'est pas un chèque en blanc que Dieu est en train de donner à Josué. La présence de Dieu dans nos vies, elle est inconditionnelle. Nul ne nous arrachera de sa main. La présence de Dieu est inconditionnelle. Mais par contre, la bénédiction de Dieu dans nos vies n'est pas sur tous nos projets, sur tous nos achats, sur tous nos choix de vie qu'on aurait fait dans notre coin et qu'après coup, on demandera à Dieu de bénir sous prétexte qu'on a un enfant. Dieu peut le faire, mais ce n'est pas un chèque en blanc. Ne prenons pas ce verset comme un chèque en blanc, autant à titre perso qu'à titre d'église. Est-ce que Josué a réussi à la fin à conquérir le pays promis? Oui? Merci Seigneur. Est-ce que Josué n'a connu que des victoires et zéro mort dans cette conquête? Non? Il y a des victoires formidables. Jéricho. Mais il y a aussi des tristes défaites, juste après Jéricho. Par exemple, la ville d'Aï. Et dans ce dernier cas, c'est justement quand Josué et son armée ont commencé à être un peu trop confiants, assurés de la réussite à tous les coups, qu'ils ont commencé à en faire un peu qu'à leur tête, que Dieu n'a plus mis sa main bénissante et victorieuse. Mais pour Josué, ce beau passage de Josué 1 n'est pas un chèque en blanc. Pourquoi? Pourquoi Dieu ne bénit pas tout ce qu'on fait, quoi qu'on fasse ou qu'on aille? Pourquoi? C'est notre dernière partie face à une grande mission. Dieu nous donne une grande promesse, celle de sa présence, celle de sa bénédiction, mais il nous donne aussi une grande exigence, celle de l'écouter et d'obéir à sa parole. Une grande promesse, mais aussi une grande exigence, celle d'écouter et d'obéir à sa parole. C'est notre troisième partie. Troisième partie donc, à partir du verset 7, Dieu dit, je suis avec toi, seulement, fortifie-toi, et aie bon courage. Sous-entendu, ça va être un peu galère quand même, hein. Fortifie-toi. Comment? En faisant de la musculation? En faisant du yoga? En faisant des siestes? Comment se fortifier? C'était ma question d'introduction. Comment se fortifier? Fin du verset 7. Fortifie-toi en te conformant fidèlement à la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Verset 8, la même idée. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite-le jour et nuit, pour agir avec fidélité conformément à tout ce que tu as écrit, et c'est alors que tu auras du succès. Conforme-toi à ce que je te dis, et c'est alors que tu auras du succès. Vous voyez l'ordre dans lequel c'est dit? Dieu donc donne une grande promesse à Josué, il lui donne aussi une grande exigence, celle de se fortifier en se conformant à sa parole, en la méditant jour et nuit, en y obéissant. C'est une exigence et ce n'est pas une option bonus. Et au passage, je te conseille, s'il te plaît, voilà, Ça serait mieux si tu pouvais te conformer à ma parole. Fortifie-toi en te conformant à ma parole. Et c'est l'assurance, justement, si Dieu nous a donné cette promesse qu'il est avec nous, ben, le fait qu'il nous demande de l'écouter, ça prend du sens. C'est l'assurance de la présence de Dieu qui nous encourage à l'écouter. Si quelqu'un vous abandonne, il vous abandonne, mais il vous donne son avis sur plein de choses à faire, mais au final, il part de son côté. Alors, bon, ça donne pas trop envie d'écouter les conseils, hein. Par contre, si quelqu'un vous dit, je suis avec toi, je vais rester avec toi, je vais te guider, je sais ce qui est bon pour toi, je suis avec toi. Alors, ses paroles et ses conseils, ce qu'il dit prend d'un seul coup beaucoup plus d'importance. Et c'est la même chose avec nous. Puisque Dieu est avec nous, alors fortifions-nous en nous confirmant sa parole. Puisque Dieu est avec nous, puisque c'est certain, puisqu'il ne nous abandonnera jamais, alors raison de plus pour se fortifier en se conformant à sa parole. Vous voyez les deux idées? Et voilà la meilleure manière de se fortifier. Voilà la meilleure manière de prendre du courage face à la rentrée, face aux défis. Voilà la meilleure manière de se fortifier. Winston Churchill disait, donc un chef militaire britannique, il disait, le courage, c'est parfois effectivement de savoir parler, faire des grands discours et aller à l'action. Et il cite, et il dit, je cite, le courage, c'est aussi ce qu'il faut parfois pour simplement s'asseoir et écouter. S'asseoir et s'écouter. Et dans notre cas, dans le cas de Josué comme du nôtre, c'est savoir écouter Dieu, notre créateur, notre sauveur, savoir écouter et obéir. Écouter et se conformer. Tout parent sait qu'il y a une grande différence entre un enfant qui a écouté l'information qu'il faut ranger sa chambre et un enfant qui a rangé sa chambre véritablement. Il y a une différence. C'est la même manière entre nous. Écouter et obéir. Si on obéit et qu'on écoute, si on écoute et qu'on obéit, pourquoi ça va nous fortifier? Pourquoi, après tout? Pour répondre à cette question, il faut se rappeler de qui est Dieu. Qui est Dieu? Notre Créateur, notre Sauveur, notre Seigneur, notre Père, celui qui sait ce qui est bon pour nous. Donc quand il parle, oui, on peut affirmer que sa parole est une lumière sur notre sentier et une lampe à nos pieds, pour nous guider, pour nous montrer ce qui est bon de faire. Peut-être que vous vous posez une question du type « Quel choix dois-je faire vis-à-vis de telle ou telle question, vis-à-vis de telle ou telle relation ?» C'est pas dit que dans la Bible vous trouviez mot pour mot la réponse à votre question, mais je ne doute pas que Dieu a quelque chose à dire. Un parallèle, un conseil, un principe qui saura vous fortifier et vous donner ce qui est bon de faire. Et en cela, c'est en écoutant sa parole que vous serez fortifié et que vous prendrez courage face aux défis qui sont les vôtres et les nôtres. Quelle application pratique? Vous vous en doutez? Quelle application pratique? Évidemment, notre connaissance, notre lecture, notre écoute de ce que Dieu dit. À défaut de pouvoir lire la Bible jour et nuit, que nous puissions la méditer jour et nuit, y penser jour et nuit, comme Josué est invité à le faire. Et je me vous pose la question, qu'est-ce que vous lisez dans la Bible actuellement? Où vous en êtes dans votre lecture de la Bible? Quand est-ce que c'est la dernière fois que vous vous êtes posé pour simplement lire votre Bible? Tout simplement. Écoutez ce que Dieu a à vous dire pour lui obéir et vous fortifier. C'était quand la dernière fois? Moi le premier, pour ceux qui disent ne jamais trouver le temps, sachez qu'on trouve toujours le temps dont on a besoin. 1h42, c'est le temps moyen que chaque Français passe sur son smartphone par jour. 1h42. Dans les transports, dans son salon, dans le lit, dans les toilettes, on trouve 1h42 par jour sur notre smartphone. Alors si on a réussi à trouver on a réussi à trouver 1h42 de notre quotidien à consacrer au portable, on comprend qu'on trouve toujours le temps dont on a besoin. Et ça s'adresse également sur la lecture de la Bible. Alors peut-être que c'est 1h42 de lecture de la Bible sur le smartphone. Dans ce cas-là, peut-être, hein. Peut-être. La réalité, c'est que nous sommes parfois bien faibles. Et c'est pourquoi, en Église, et c'est là tout le bénéfice de l'Église, nous voulons nous encourager les uns les autres à lire la Bible. Nous encourager dans notre écoute et dans notre obéissance de la parole de Dieu. Comment on le fait? Dimanche après dimanche, groupe de partage après groupe de partage, étude biblique après étude biblique, on veut mettre en avant la parole de Dieu, ensemble, tout simplement. Et à titre individuel, comment s'encourager les uns les autres? Depuis maintenant presque un an, on vous propose ces petits plans de lecture tous les mois, pour ceux qui le veulent. Certains, c'est pour reprendre leur lecture de la Bible. D'autres, c'est pour persévérer dans leur lecture de la Bible. On vous propose tous les mois, à titre individuel, quelques chapitres, quelques versets. Voilà, il y a 2 chapitres par jour. On parle pas de lire 3 fois l'Ancien Testament par semaine. Voilà. Prenez-en un à la fin du culte. Et tous les mois, même si vous avez pris du retard sur le mois précédent, ça permet de raccrocher le wagon, mois après mois. Voilà comment on veut s'encourager. Lire, écouter, non pour simplement dire « c'est bon, j'ai coché tel jour », mais vraiment pour obéir, pour conformer nos vies à ce que Dieu dit, et en ce sens-là, se fortifier et prendre courage. Ça s'applique à quand il nous faut trouver la force d'aller demander pardon à quelqu'un. Ça s'applique quand il faut oser témoigner de notre faux, quand il s'agit de prendre telle ou telle bonne initiative, quand il s'agit de trouver la persévérance dans tel et tel service, quand il s'agit de gérer notre argent entre prudence et générosité, ça s'applique quand il faut ne pas répondre au mal par le mal. La liste est longue. La liste est longue et le conseil de Dieu précieux sur chacune de ces questions. En conclusion, que conclure de tout ça? Nous avons déjà redécouvert avec ce texte comment Dieu donne à Josué, qui est face à une mission énorme, mais comment face à cela, il lui donne une grande promesse et une grande exigence. Et c'est la même chose pour nous. Je vous l'ai déjà dit, je le répète, puisque Dieu est avec nous, alors fortifions-nous en nous conformant à sa parole. Puisque Dieu est avec nous, raison de plus pour se conformer à sa parole et en cela être fortifié. Dès la fin du premier chapitre, si vous lisez la suite de Josué 1, vous voyez que Josué s'empresse de transmettre cette parole au peuple et aux officiers militaires qui sont là. Dans la suite de Josué, du livre, est-ce que Josué a été parfait? Est-ce qu'il a été un chef parfait? Est-ce qu'il a réussi à se conformer en toutes choses à la parole de Dieu? Pas toujours. Mais nous avons un chef bien meilleur. Nous avons un chef bien meilleur qui, lui, a été parfait et qui a suivi parfaitement les paroles de Dieu. Est-ce que vous savez comment on dit Josué en grec? Je vous sais bilingue entre le grec, donc je me permets de poser cette question. J'ai découvert ça. Josué, en grec, ça se dit Jésus. Alors, c'est un petit clin d'œil. Mais oui, aujourd'hui, notre chef, c'est Jésus-Christ, notre exemple, notre Seigneur, notre Sauveur, celui par lequel Dieu est avec nous et celui duquel l'Esprit nous rappelle les paroles jour après jour. Alors, qu'à titre personnel, individuellement, qu'en Église, les uns avec les autres, que nous puissions nous fortifier pour cette nouvelle saison, cette nouvelle rentrée, cette nouvelle année qui s'ouvre devant nous, que nous puissions nous fortifier comment ? En nous conformant toujours plus à la parole de Dieu. C'est ma prière de ce matin. Puisque Dieu est avec nous, alors fortifions-nous en nous conformant à sa parole. Amen. Éternel, tu es le Dieu de justice, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu créateur, tu es le Dieu qui nous connaît mieux que nous-mêmes, tu es le Dieu qui sait ce qui est bon pour nous, tu es le Dieu qui nous a rachetés, qui nous a sauvés, qui nous a redonné vie, et tu es le Dieu qui nous offre une espérance. En cela, ta présence dans nos vies, à travers ton Fils, à travers ton Esprit, nous est précieuse et nous voulons te bénir pour effectivement ce don merveilleux que tu nous as fait. Aujourd'hui, donne-nous effectivement le courage de savoir t'écouter, donne-nous le courage de savoir t'obéir et nous conformer à ce que tu veux pour nous. Donne-nous la persévérance effectivement dans nos lectures de la Bible, dans notre écoute de ta parole, que ce soit à titre communautaire ou individuel, donne-nous effectivement cette persévérance et ce courage de t'écouter. Seigneur, nous voulons nous remettre de nouveau à toi et te célébrer et te remercier déjà par avance pour tout ce que toutes les bénédictions que tu nous enverras. Amen.